en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président pour cette invitation et particulièrement pour le libellé du sujet qui d'emblée nous donne la boussole puisqu'il s'agit d'examiner les politiques de l'énergie et de proposer ce qu'il faudra faire pour l'avenir, pour assurer la compétitivité de notre économie, réduire notre dépendance extérieure et protéger l'environnement. Et donc c'est au regard de ces trois dimensions que je vais revenir sur les performances de la France et sur ses évolutions récentes. La France a longtemps été aux avant-postes en termes de politique de l'énergie. Et nous allons voir que ses performances en termes d'émissions de CO2, en termes d'indépendance énergétique, en termes de compétitivité de l'énergie et de l'électricité, sont aujourd'hui encore très bonnes au regard de la plupart des autres pays, en particulier de pays comparables. En revanche, il y a un petit point de préoccupation depuis 10, 15 ans où on observe une fragilisation de ses performances. Il faudra d'ailleurs ajouter que cette fragilisation est encore probablement plus visible à l'échelle européenne dans un certain nombre de domaines comme le secteur électrique. Et donc, avant de les analyser plus précisément et de revenir un peu sur l'histoire de ces 50-60 dernières années, si on prend un peu de distance, on est frappé par le contraste entre sur les 10-15 dernières années, les maux du marché, de la promotion des initiatives locales et les choses qui sont plutôt la multiplication des objectifs de politique énergétique, l'accumulation des cibles quantifiées par secteur, la progression du nombre de lois, surtout du nombre de décrets, de textes réglementaires et du coup, en lieu et place de la mise en place des marchés, on constate de plus en plus la mise en place, ces dernières années, d'une économie administrée. Pour ceux qui ont commencé à faire de l'économie comme moi, à la fin des années 70, au début des années 80, ça n'est pas sans rappeler certains aspects du contrôle des prix à cette époque. Et donc d'une économie administrée et d'une économie de subvention, avec tout son cortège de jeux des groupes d'intérêt, qu'ils soient entreprises ou associations, ONG, donc de l'ensemble des lobbies, pour utiliser un mot franglais, qui s'occupent essentiellement du court terme. Et donc, il me semble qu'à ce stade introductif, il me semble que c'est un symptôme de la montée en même temps d'une société civile dynamique, d'innovations techniques très importantes, qu'on pense aux photovoltaïques, aux batteries, de la montée de cette aspiration à la proximité du local, montée en puissance des territoires, des collectivités locales, et en même temps de la prise en compte de dimensions systémiques majeures qui sont de plus en plus importantes. On peut penser d'emblée à toutes les questions liées au changement climatique, les impacts sur l'environnement, toutes les questions liées à l'interconnexion de plus en plus forte de nos sociétés plus denses autour des réseaux de télécommunications, des réseaux d'énergie, et la nécessité effectivement de mettre en place des solidarités plus fortes. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister d'emblée, c'est, il me semble, la nécessité de prendre conscience de cette articulation. Et c'est peut-être ça qui nous a manqué. On repère bien dans les textes de loi cette double préoccupation. On a les mots qui décrivent dans les attendus cette montée du local, ce dynamisme de la société dont qu'il faut prendre en compte dans les politiques publiques. Et on a également, à d'autres endroits, la référence aux enjeux climatiques, environnementaux, de solidarité dans les territoires. En revanche, je pense que ce qui probablement nous a manqué en France, aussi en Europe, c'est de prendre conscience de l'importance de ces deux phénomènes, du fait que finalement notre tâche doit d'abord consister à les articuler en prenant en compte un degré de complexité probablement plus important que dans les années 50 et 60 au moment de la reconstruction, et en ayant aussi en tête que dans un contexte de croissance ralentie économique et aussi du côté de la demande d'énergie et d'électricité, toute erreur se paye cher et longtemps, beaucoup plus que là aussi par le passé quand on avait 7% de croissance d'électricité par an. Donc, derrière ce symptôme, et ce sera probablement les trois points sur lesquels j'aurai tendance à revenir dans les deux, trois moments de ma présentation, on peut repérer au fond probablement trois manques, et donc trois manques qu'il faut, à mon avis, à mon sens, combler, essayer de combler dans les temps qui viennent. Le premier manque, c'est essayer de surmonter cette non-hiérarchisation des objectifs pour essayer de mieux distinguer entre finalité et moyens. C'est derrière, pour que la puissance publique puisse faire son travail, redévelopper des analyses systémiques et économiques qui prennent en compte de façon beaucoup plus rigoureuse l'évolution des caractéristiques technico-économiques du secteur pour, là encore, proposer des axes stratégiques et des politiques publiques incitatives de qualité. Et puis enfin, il manque aussi une préparation de l'avenir en termes de chemin sur la recherche-développement, en termes de préparation des écosystèmes industriels de demain, qui traduisent une absence de travail en commun sur l'avenir dans ces dimensions que je viens de mentionner, donc scientifiques et industrielles. Évidemment, derrière, probablement la vraie réforme, si l'on peut dire, les réformes à faire, c'est pour mettre en œuvre et pour reprogresser sur ces voies-là, comme toujours, ce qui nous manque, ce sont les hommes et les institutions. Et ce sera ma conclusion, mais d'emblée pour l'annoncer, c'est probablement les trois questions qu'il nous faut traiter. C'est remonter le niveau des compétences dans la haute fonction publique au plus haut niveau, au service de l'État, dans les dimensions en particulier économiques, scientifiques et industrielles. Retrouver un lieu de synthèse sur les questions énergétiques à un moment où la sphère publique a été fragmentée depuis 15 ou 20 ans dans ces domaines. Et puis enfin, c'est effectivement trouver les formes de responsabilisation du politique pour permettre à la fois des évaluations des politiques publiques de meilleure qualité et de faire en sorte que toute mesure nouvelle puisse voir clairement assurer son financement avec effectivement les débats qui s'imposent avec les différentes parties prenantes. Donc ce que je vous propose, après cette longue introduction, mais dans laquelle j'ai essayé de placer au fond les principaux messages à discuter de mon point de vue, ce que je vous propose, c'est peut-être dans un premier temps de revenir sur l'histoire, sur ses performances de la France, leur très bonne qualité, et en même temps pourquoi progressivement, depuis une quinzaine d'années, elles se sont fragilisées. Et puis ensuite, de venir sur quelques éléments plus tournés vers l'avenir, sur finalement quelles prospectives pouvons-nous faire des enjeux principaux dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, et quelles politiques publiques on aura envie de proposer pour conclure sur ce que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire les hommes et les institutions. Alors, les performances de la France. Il faut bien reconnaître qu'elles sont quand même très bonnes. Donc c'est un motif de satisfaction et d'optimisme au regard de ce qui se fait ailleurs. Si l'on prend l'indépendance énergétique, on est aujourd'hui, quand on fait des calculs en termes d'énergie primaire, la France est indépendante à peu près 55%, contre 47% pour l'Europe, 37% pour l'Allemagne, malgré son charbon et son lignite, j'ai envie de dire. Et donc c'est plutôt positif. Et l'on sait que la France a toujours été habitée, depuis le début du XXe siècle, particulièrement depuis les deux grandes guerres, par cette question de sécurité d'approvisionnement. Il faut garder en tête que depuis 1920 jusqu'en 1965, le mix électrique français a été à plus de 50% hydraulique, la houille blanche, Clémenceau en parlait déjà, et donc cette préoccupation de longue durée, où le politique a gardé le cap dans la longue période, effectivement, a pu trouver une réalité qu'elle a encore aujourd'hui. C'est évidemment, pour une part très importante, le parc nucléaire qui a pris le relais et qui explique ce niveau. Si je reste au fond, parce que j'ai commencé par l'indépendance énergétique, parce qu'effectivement, c'est ce qui est au cœur des discussions encore dans les années 45-95, ceci va de pair avec des performances en termes d'efficacité énergétique. Et là, contrairement à ce qu'on dit parfois, la France aussi n'est pas mauvaise. On pourra y revenir dans la discussion si certains s'y intéressent. Quand on compare la France à l'Allemagne, à la moyenne européenne, on est 8% en dessous de l'Allemagne en termes de consommation d'énergie par unité de PIB, et on est à peu près 12 à 13% en dessous de la moyenne européenne. Donc on retrouve à certains égards aussi le travail de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, puis l'ADEME aujourd'hui, la chasse au gaspille qui effectivement depuis a continué par un certain nombre de mesures. Deuxième dimension, les émissions de CO2. Pour parler un peu d'environnement, là encore, la France, 5 tonnes de CO2 par habitant, l'Allemagne, un peu plus de 9 tonnes de CO2 par habitant. Donc la France est partie des pays développés, avec la Suède, avec le Québec, si j'en fais un pays, qui ont des émissions de CO2 parmi les plus faibles. Alors c'est très simple, la raison c'est d'abord l'électricité. Donc vous savez que contrairement à ce qu'on a en tête en France, dans le monde, l'électricité c'est 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie, seulement à peu près 20% pour le transport, et environ 10% pour les bâtiments. Si vous prenez la France, les émissions de CO2, c'est seulement 7% l'électricité, autant dire quasiment rien. Du coup, les transports sont à 40%, le double du pourcentage mondial, et les bâtiments à 20%, le double du chiffre à l'échelle mondiale. Et donc, grosso modo, vous voyez, si l'Allemagne est à 9 tonnes ou plus de CO2, un peu plus de CO2 par habitant, ça renvoie tout simplement au fait que son mix est finalement vu de loin, mais surtout en termes d'énergie fossile et de sollicitation du charbon et du lignite, plus proche du mix mondial. Dans le mix mondial, vous avez à peu près 40% de charbon, 2/3 de fossiles, 11% de nucléaire, 15% ou 16% d'hydraulique. Si vous prenez la France, évidemment, vous avez plus de 90% nucléaire plus hydraulique. Et si vous prenez l'Allemagne, vous avez plus de 40% qui sont pour moitié charbon, pour moitié lignite. Ce qui explique le résultat en termes d'émissions de CO2. Et puis enfin, le troisième volet, c'est la compétitivité. Et donc sur la compétitivité, on peut parler de plusieurs indicateurs. Pensons simplement au prix d'électricité ou à la balance commerciale. Le prix d'électricité est aujourd'hui encore de 25% plus élevé pour les ménages et pour l'industrie, donc je vais parler hors électro-intensif qui ont un statut un peu à part, mais l'industrie de façon générale, donc est de 25% plus élevé en Europe en moyenne qu'en France, ménage et industrie. Donc vous voyez, pouvoir d'achat et compétitivité du pays. Et si l'on compare de nouveau avec l'Allemagne, les prix de l'électricité allemand sont 80% plus élevés que les nôtres pour les ménages et 60% plus élevés que les nôtres pour l'industrie, hors de nouveau électro-intensif. Balance commerciale, 2 milliards d'euros d'exportation d'électricité à peu près par an. Et si on avait un mix électrique fondé sur le gaz, on aurait des importations qui seraient aujourd'hui de l'ordre de 8 milliards d'euros de plus et qui, il y a 3 ans, 4 ans, en 2013, juste avant le dernier contre-choc pétrolier-gazier, aurait été plutôt le double, c'est-à-dire de l'ordre de 15-16 milliards d'euros par an. Et puis enfin, tout ça se traduisant par un tissu industriel avec des grands groupes européens, internationaux à base française dans ce secteur. Total, EDF, Engie, Saint-Gobain, Schneider. Un tissu de PME très actif. Et puis un niveau scientifique autour du CNRS, du CEA, pour ne citer que de très bonne qualité. Alors peut-être pour terminer sur cette entrée en matière sur les performances, peut-être pour que vous ayez sans vous assommer de chiffres, mais que vous ayez quelques ordres de grandeur sur le poids de l'énergie et de l'électricité pour illustrer les enjeux de compétitivité. Donc l'énergie, c'est 8,5% des dépenses des ménages. moitié bâtiment, moitié transport. En termes de valeur ajoutée, si on pense donc, si on veut comparer l'espace d'un instant au produit intérieur brut, qui est de l'ordre de 2000 milliards d'euros, la valeur ajoutée du secteur électrique est de l'ordre de 40 milliards d'euros en France, pour une part très importante liée à l'électricité et aux filières, par moins importantes, aux filières bois-énergie. Et les importations de pétrole et de gaz pèsent aujourd'hui pour 40 milliards d'euros et pesaient, pour les mêmes raisons que j'évoquais il y a un instant, plutôt de l'ordre de 70 milliards d'euros il y a 3 ou 4 ans. Donc je vais essayer de dire qu'effectivement, ça vaut quand même le coup de réfléchir un peu à ce qu'on fait dans le secteur de l'énergie, en particulier en termes économiques. Alors pourquoi ces performances sont-elles si bonnes ? Je crois qu'on peut dire qu'elles sont bonnes parce que nous avons conservé les capacités opérationnelles de mettre en œuvre, de faire tourner l'outil industriel dont nous avons hérité. Mais enfin, cela tient aussi pour une large part à la qualité des décisions qui ont été prises dans les années 45-95, dans ces 50 années qui suivent la reconstruction. Et je crois qu'on peut dire, dans ces facteurs de succès, je crois qu'il est intéressant d'en citer trois. Beaucoup ne sont pas reproductibles, bien entendu, et les temps sont totalement différents. Ces trois-là me semblent conserver leur pertinence pour les années qui viennent. La première, c'est la capacité du politique à dire clairement ses priorités et à les tenir dans la durée. C'est-à-dire qu'on pense au nucléaire, où depuis Félix Gaillard, sous la 4e République, qui lance le premier programme de nucléaire civil d'ampleur, jusqu'à François Mitterrand, en passant évidemment par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, on voit cette continuité à l'œuvre. Et l'on voit ces politiques s'intéresser aux points clés qui permettent de transformer ces objectifs, cette vision, en résultats effectifs. Juste pour prendre un exemple lié au programme nucléaire, donc effectivement j'ai un léger biais, j'ai peut-être pas été touché par la grâce, mais sûrement par la fée électricité, donc j'ai un petit biais dans ma façon de présenter ce qui se passe dans le secteur de l'énergie, mais vous ne m'en voudrez pas. Et donc si l'on regarde ce qui s'est passé à un moment clé dans l'histoire du nucléaire, c'est-à-dire la discussion, le débat entre la filière graphite-gaz et la filière PWR, on voit que dans les deux facteurs clés, on a trouvé, et dont parlaient les politiques, le général de Gaulle, Georges Pompidou, avec les industriels concernés. Il y avait la capacité à montrer qu'on maîtriserait l'enrichissement, sinon la filière PWR ne permettait pas l'indépendance énergétique de la France, jusqu'au bout. Et donc ce sont vraiment les travaux de Georges Besse qui ont permis de pouvoir dire, à partir de 66-67, et la mise en service de Pierre Latte sur le plan industriel, la France maîtrise pour des raisons militaires l'enrichissement, on pourra le maîtriser pour le nucléaire civil. Et le deuxième grand enjeu, c'était la capacité à dire que ces centrales nucléaires seraient compétitives pour l'économie française avec les centrales au fioul qui fournissaient la base à cette époque. Et donc ceci se révèle au travers de l'appel d'offres en 1970-71 qui a permis de décider l'engagement des deux tranches à Fessenheim et des quatre tranches au Bugey, ce qu'on appelle le contrat de programme zéro dans le nucléaire, et vous voyez que c'est avant le choc pétrolier, et c'est le moment où la filière nucléaire, si l'on veut, Philippe Boulin, Le Creusot, répondent aux appels d'offres en postant un prix qui, effectivement, va être juste équivalent à celui du charbon. Jusque-là, la filière, le politique, résistait au désir de déployer massivement le nucléaire, fût-ce pour des considérations de sécurité d'approvisionnement, il était un peu trop tôt. Donc, le bon moment, c'est quelque chose d'important dans le domaine de l'énergie, ce qu'on s'inscrit dans la durée. Donc, je pense que c'est une bonne idée, une bonne image du style de discussion au plus haut niveau sur ces questions. Le deuxième point, ce sont la qualité des acteurs, la qualité des analyses technico-économiques proposées par les acteurs pour justement mettre en œuvre ensuite ces politiques publiques. Là encore, si on pense à l'électricité, il y a deux exemples qui sont particulièrement frappants. Dans les années 50-60, un des points clés, surtout les années 50, c'est les arbitrages hydrauliques thermiques. Pierre Massé, d'abord directeur de l'équipement, puis commissaire au plan, va proposer, dans les deux cas de figure, de mettre en place un taux d'actualisation. Les marchés financiers à l'échelle internationale n'existaient pas. La France était confrontée à une contrainte budgétaire. Donc on va mettre en place un taux d'actualisation pour comparer l'hydraulique très capitalistique, le charbon moins capitalistique, d'une façon cohérente, pour que, là encore, les résultats soient les meilleurs pour la France en termes économiques. Deuxième exemple, les coûts marginaux de long terme. Donc je parle sous le contrôle de Marcel Boiteux, coûts marginaux de long terme. Il s'agissait de repérer, là encore, que dans les enjeux clés dans le secteur de l'énergie, il y avait certes la qualité des investissements au niveau de l'offre, les centrales électriques, les réseaux, mais il y avait aussi la qualité des investissements chez les clients, au niveau des process industriels, ménages. Parce que l'essentiel des coûts, aussi au niveau de l'aval, ce sont des coûts d'investissement. D'où l'intérêt d'envoyer des signaux de prix, de simuler le marché de la façon la plus astucieuse possible, dans un contexte où il y avait un monopole naturel. Et donc ça a été la mise en place de la tarification au coût marginal de long terme, pour que les clients voient des niveaux de prix suffisamment stables pour qu'ils soient crédibles pour leur choix d'investissement et reflétant les coûts de développement occasionnés par un kilowattheure de plus en termes de réseau ou de centrale. Ce sera le tarif vert en 56 et les tarifs bleus au milieu des années 60. Et puis enfin, je pense que le dernier point marquant, c'est la qualité des analyses en termes industriels et scientifiques. Là encore, tirer l'électricité. Pierre Ayré, qui est le patron de la R&D d'EDF à la reconstruction et qui sera directeur général adjoint jusqu'à la fin des années 60, met en chantier des études sur l'ensemble des technologies nucléaires, éoliennes, solaires, plutôt solaires thermiques. Il va imposer au COA des hommes d'EDF sur les premières piles à Marcoule. Et donc vous voyez que là aussi, vous aviez vraiment des discussions fortes animées par une profondeur en termes de compétences scientifiques et industrielles au service du pays. Si j'en viens aux 10-15 dernières années, on observe effectivement une dégradation des performances, pas catastrophique, mais tout de même un peu préoccupante. Je vais les reprendre dans l'ordre maintenant plutôt qui est celui au fond de nos débats d'aujourd'hui, donc en commençant par l'environnement et le climat. Certes, les émissions de gaz carbonique, de CO2 par habitant, sont passées, si l'on prend les émissions métropolitaines, de 6,8 tonnes de CO2 à 5,2 tonnes de CO2 entre 1995 et 2015. Mais, si vous examinez ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est-à-dire que vous faites le compte des émissions de carbone en France, mais que vous y rajoutez celles que nous générons quand on achète des produits industriels fabriqués en Chine avec un mix dans lequel vous avez du charbon. Là, les chiffres sont légèrement différents. Il n'y a pas d'amélioration sur cette période. On passe de 8,2 tonnes par habitant en 1995 à 8,3. Ce qui signifie probablement que dans la baisse des émissions de carbone sur le territoire français, la déindustrialisation joue un rôle important. Pas uniquement, Dieu merci, mais tout de même. Et donc on peut se demander s'il y a vraiment... Si l'objectif est vraiment de diminuer les émissions de CO2. Et juste un petit exemple pour pointer l'une des questions qu'on peut se poser. Quand on regarde les logements, puisque l'électricité est décarbonée, vous vous rappelez que j'ai indiqué que l'effort à faire, c'est évidemment les transports, 40% des émissions de CO2, et les logements. Une des solutions peut consister pour les logements, l'essentiel c'est le chauffage, à donc promouvoir l'électricité décarbonée, ou le bois énergie, la biomasse et les réseaux de chaleur. Donc, le potentiel est important, parce que derrière ces émissions dans les logements, vous voyez que vous avez encore aujourd'hui, ce que n'ont pas généralement en tête la plupart des gens, vous avez que, si on regarde les térawattheures consommés pour le chauffage dans les bâtiments des particuliers, vous avez 40% chauffage au gaz, 15% fossiles, 30% bois, énergie et chaleur, et 15% électricité. Donc vous voyez qu'il y a du potentiel pour essayer de diminuer le plus possible et le plus vite possible les 15% de possible, et de positionner le gaz là où il a vraiment un avantage comparatif. Je ne vais pas développer. Et quand vous regardez, quels sont les instruments d'incitation ? La fiscalité. Pas de chance. La fiscalité, en fait, est aujourd'hui, rajoute 38% aux factures de l'électricité, alors qu'elle rajoute seulement 18% au gaz, et à peu près le même ordre de grandeur pour le fossile. Donc la fiscalité, une vraie fiscalité environnementale, devrait faire l'inverse. Et la fiscalité est importante, parce que c'est probablement l'un des outils qui a le plus d'efficacité en termes de réaction des consommateurs. On l'a observé d'ailleurs lors des chocs pétroliers. Le deuxième point, c'est l'autre message que l'on envoie, ce sont les informations que l'on donne aux consommateurs, mais aussi aux bailleurs sociaux ou à l'ANA, pour définir, d'une part, les subventions qui seront octroyées dans les logements, et d'autre part, les politiques pour de logement social. Sur la base de quel indicateur ces politiques se développent ? Sur la base non pas des émissions de CO2, non pas des euros par ou non pas de la facture, mais de ce qu'on appelle l'énergie primaire. Alors je ne vais pas développer cela, si ce n'est pour vous dire que les effets pervers sont très importants, puisque sans rénover aucunement votre logement, si simplement vous substituez du gaz, une chaudière au gaz, à du chauffage électrique, d'emblée vous réduisez par un facteur 2,58 votre consommation d'énergie primaire, pour des raisons de convention. Donc évidemment, on aboutit exactement à l'opposé de ce que l'on pourrait vouloir en termes de résultats. Si l'on prend l'augmentation, si on vient sur l'économie, augmentation des tarifs aux consommateurs, là aussi, on voit que les tarifs ont augmenté alors qu'ils ne faisaient que baisser dans la période précédente depuis 2010, de l'ordre de plus 35 euros par mégawattheure pour le résidentiel par rapport à un prix moyen autour de 140, et des surcoûts qui pèsent directement ou indirectement sur le budget de l'État. On peut avoir en tête des surcoûts aujourd'hui de l'ordre de 6 milliards, un peu moins de 6 milliards d'euros par an liés au développement des renouvelables, qui pèsent sur les taxes payées par les consommateurs. Si l'on prend les subventions en termes de crédit d'impôt pour la transition énergétique dans les logements, on a un ordre de grandeur de 2 milliards d'euros. Donc grosso modo, si je vous le fais en package, vous avez à peu près 10 milliards d'euros, ce qui pèse d'une façon ou d'une autre sur le budget de l'État, et vous avez quelques centaines de millions d'euros, quelques milliards d'euros qui pèsent directement sur les opérateurs qui sont liés à des obligations liées à cette économie de subvention que j'expliquais tout à l'heure. Donc voyez, pourquoi ne pas effectivement faire des subventions ? Mais voyez que l'examen précis de l'utilité de ces subventions, la capacité de faire des analyses concernant les échecs de marché à chaque fois pour être sûr que l'outil de politique énergétique sera le bon, est quelque chose qui effectivement est important aujourd'hui. Et enfin, en termes d'indépendance énergétique, on peut peut-être parler au fond qui se pose probablement moins pour les années qui viennent en termes d'accès aux ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui vont peser de moins en moins, en particulier dans le mix électrique, mais plutôt en termes de maîtrise industrielle des technologies clés qui vont précisément nous aider à produire de l'électricité ou à produire de l'énergie. Et là, la perte de substance qui s'amorce tout doucement, on a vu Alstom, les difficultés de la filière nucléaire, Areva, le fait que pratiquement après le départ pour la Chine et l'Asie de l'ensemble de la Sunbelt allemande qui était pionnière en matière d'industrie du photovoltaïque, nous n'avons plus en Europe et en France d'industrie qui soit vraiment forte en matière de photovoltaïque, en matière de batterie, qui sont partie de ce qui nous permettra demain de faire de l'électricité sans CO2. Et donc du coup, si j'en viens maintenant sur les quelques points de diagnostic, on a au fond un peu l'image inversée de ce que je disais sur les années 55-95. Alors, je veux dire, je caricature un peu pour ne pas être trop lent. En fait, il y a plein de bonnes choses qui se sont mises en place sur les 15 dernières années, bien sûr, à commencer par la mise en évidence de ces questions environnementales, le souci de faire monter en puissance et responsabiliser davantage les territoires, les stimulations au travers des investissements d'avenir, d'un paquet d'innovations, de start-up qui seront vraiment très utiles demain. Donc, il faudrait faire la part des choses. Il y a beaucoup de points positifs. Mais comme pour progresser, l'important, c'est pas forcément de s'attarder sur les points positifs, mais plutôt sur ceux qui sont négatifs. Je voudrais donc réinsister sur cette image inversée, où ce qui nous manque, c'est bien cette absence de hiérarchie des objectifs. Si vous prenez la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, vous voyez que vous avez plus de 30 objectifs qui mélangent à la fois les finalités, les trois qui sont dans le libellé du thème aujourd'hui, mais aussi les quantités de technologies que vous développez, la biomasse, la chaleur, etc. Donc des choses de niveau totalement différent. À l'arrivée, bien entendu, ces objectifs ne peuvent être que contradictoires, mais vous n'avez pas les clés pour les hiérarchiser. La deuxième dimension, c'est les analyses économiques. Alors, ces analyses économiques manquent au fond à trois niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau, on pourrait dire, de planification stratégique du domaine de l'énergie, prenant en compte ces dimensions systémiques. Comment intégrer des énergies renouvelables variables, comme les éoliennes ou le solaire, dans la gestion du système électrique, et utilisant ce qu'on appelle les valeurs tutélaires en économie, le taux d'actualisation, mais surtout toutes les valeurs, tous les prix fictifs qui vont donner une indication de la valeur économique et sociale des émissions de CO2, des émissions de SOX, de NOX, de particules, des problèmes liés à la congestion, qui sont les questions systémiques, on pourrait dire en utilisant de façon approximative les mots pour l'économiste, qui recoupent externalité, bien commun, bien public, et qui doivent être au cœur, effectivement, de cette planification stratégique au service du politique. Le deuxième niveau qui manque, on retrouve l'Institut d'économie industrielle de Toulouse, c'est les qualités incitatives des politiques publiques. Moi, je pense que j'aurais tendance, comme économiste, à proposer que dès lors qu'il s'agit de déploiement massif de technologies matures, on suspende le jugement avant de mettre en place des subventions, qu'on utilise par contre des instruments de fiscalité environnementale, oui, qu'on se repose le plus possible sur le marché, et que l'on réserve pour les subventions plutôt le domaine de la préparation de l'avenir, la R&D, des prototypes industriels, et puis tout ce qui est lié à la solidarité, toutes les questions de redistribution, la précarité énergétique, etc. Et qu'on ne réserve d'autres subventions qu'après avoir imposé une vraie analyse de l'échec du marché, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis le troisième point qui pose question, c'est la qualité des évaluations macroéconomiques. Je ne vais pas développer, mais c'est un point très important si on veut que le politique puisse fonctionner, c'est de pouvoir lui apporter des évaluations macroéconomiques en termes d'impact sur l'emploi, sur la croissance, de qualité. Je crains que ce ne soit pas totalement le cas aujourd'hui. Et puis le dernier volet, c'est la préparation de l'avenir. Donc je parlais de roadmap R&D, pour de nouveau faire utiliser le franglais, et des soucis autour de l'écosystème industriel. Je pense qu'il faut vraiment réaliser qu'aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont bien meilleurs que nous. Alors vous allez me dire, oui, la Chine est bien meilleure, mais là, ça ressemble peut-être un peu aux années 50 et 60. Le plan en Chine, qui s'appelle la NDRC, effectivement a une façon de fonctionner qui est légèrement planifiée et légèrement centralisée, surtout ces questions. Mais encore faut-il le savoir, parce que ce sont eux, nos concurrents. Nous achetons nos panneaux photovoltaïques en Chine. La Chine construit des centrales charbon, aujourd'hui 2 à 3 fois moins cher que ce que nous faisons en Europe. Elle s'apprête à faire la même chose dans le nucléaire. Et ceci se traduit par une organisation à Pékin que j'ai eu la chance de pouvoir observer, puisque on a tendance à interroger des gens comme moi davantage à Pékin, à Washington, que chez nous, mais que j'ai donc pu observer à Pékin, et où, si je prends l'exemple du photovoltaïque, tout à fait frappant, on voit que finalement leur avantage comparatif n'est pas tant sur les coûts de personnel, mais plutôt sur la qualité de l'écosystème industriel. Tout un tas d'intrants sont beaucoup moins chers et produits en bien plus grande qualité, donc bénéficiant d'effets de standardisation bien plus forts que chez nous. Donc on retrouve les effets liés à la déindustrialisation de l'ensemble de l'Europe. Ce sont des effets systémiques, il faut les aborder comme tels. On constate aussi que nos amis chinois, ils organisent le process d'innovation de façon un peu particulière. Lorsqu'il faut dépenser un peu moins d'argent, quand on coupe un wafer sur les panneaux, on met en place 50 expériences dans les 30 entreprises ou 10 entreprises qui produisent du photovoltaïque. Le premier qui a trouvé va le raconter à Pékin, et ensuite, sous l'égide du plan, cette innovation est donnée et diffusée à l'ensemble des autres acteurs chinois, pour qu'ils puissent continuer à avoir un temps d'avance sur l'Europe. Et j'ajoute, comme ils savent qu'à terme, ce sont les machines-outils qui sont clés, ils sont en train maintenant, depuis 1 ou 2 ans, à non seulement être capables de produire des panneaux en utilisant des machines-outils allemandes, mais ils se sont débrouillés pour copier et commencer à produire ces machines-outils chez eux. Donc vous voyez que, évidemment, on ne va pas faire comme eux. Mais je pense qu'on devrait s'inspirer peut-être plus, et on a commencé à travailler là-dessus avec Yves Brachet, avec quelques autres collègues à l'Académie, pour essayer de voir comment font les Américains. Obama, sur les 8 ou 10 dernières années, a mis en place un système qui, au fond, très différent des Chinois, dans un monde de marché, essaye d'avoir les mêmes résultats. Donc je ne vais pas développer tout de suite, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais il y a une vraie sollicitation des meilleures compétences industrielles, scientifiques, au service du président des États-Unis, au travers de son Chief Scientist Officer, avec un vrai programme qui s'appelle le Quarterly Technology Review dans l'énergie, qui n'a pas son équivalent aujourd'hui en France ou en Europe. Donc je pense qu'on pourrait essayer de s'en inspirer pour avancer. Alors je vais, comme je l'avais malheureusement annoncé au président, que je déborde un peu en termes de timing, on pourrait faire les mêmes commentaires sur l'Europe. On pourrait prendre des exemples au niveau européen qui illustrent ce que nous faisons en France. Alors, j'ai préféré développer plutôt la France parce que je pense que si la France était plus présente dans les débats européens qu'elle ne l'a été sur les 10 ou 15 dernières années, avec une vision plus claire de ce qu'elle veut, et donc la capacité à intervenir comme force de proposition plutôt que de laisser ou les Anglais ou les Allemands les faire, et de se mettre au fond sur les 10 dernières années un peu à l'ombre des Anglais, paradoxalement, sur ces questions énergétiques, puisque les Anglais, après avoir été des farouches partisans du marché, à tout va, j'ai envie de dire, le marché c'est bien, mais à tout va dans le secteur énergétique, depuis 10 ans, ont plutôt pris en compte des préoccupations industrielles et ont donc défendu plutôt des objectifs climatiques et des objectifs de puissance industrielle dans la durée autour du nucléaire ou des renouvelables par rapport aux options allemandes. Donc la France a été bien contente de se mettre à l'ombre de nos amis anglais. Je pense que probablement les choses changeraient et que nos partenaires, si on y va de nouveau en étant à l'écoute de l'intérêt général européen, en essayant d'être à l'écoute de ce que chaque autre pays, je pense à des pays comme la Suède, à des pays comme le Benelux, l'Italie, ce que eux aussi, ce qui est important pour eux, ce qu'ils peuvent apporter, je pense qu'on pourrait faire évoluer les choses. Je ne vais donc pas développer l'Europe puisque les effets sont les mêmes, et je vais maintenant me tourner vers l'avenir. Alors peut-être avec un petit détour. Si l'on parle de l'avenir, avant de vous dire tout de suite peut-être quelques exemples de politique énergétique qu'on aura envie de mettre en place au regard des analyses précédentes, je pense qu'il est intéressant de peut-être revenir sur 4 points que je vais choisir, de nouveau un peu plus électriques qu'énergétiques, qui me semblent importants et qui vont renforcer à certains égards les remarques que j'ai faites jusqu'à présent. Donc, c'est 4 éléments de prospective qui me semblent intéressants. Donc le premier, c'est... évidemment, pour chacun, ce sont des débats. Donc je vais y aller de façon un peu caricaturale, là encore, mais bien entendu, ce ne sont qu'au fond des propositions ou des questions. Il me semble que le climat est un enjeu majeur. C'est en tous les cas ce que disent aussi des agences internationales comme l'Agence internationale de l'énergie ou la Banque mondiale. Et il faut réaliser que si on cherche vraiment, si l'on est vraiment sérieux pour essayer d'atteindre l'objectif 2 degrés, en ordre de grandeur, bien sûr, j'aurais juste envie de faire passer un frisson dans cette salle, parce que c'est terrorisant, et on ne le dit pas suffisamment. Et donc, je veux dire, c'est terrorisant au sens de l'intensité des mesures qu'il faut prendre, ce qui veut dire que, pour essayer de se déterroriser, il faut essayer de mettre ça en œuvre de façon vraiment efficace. Pourquoi c'est terrorisant ? Parce que ce que disent ces études, c'est que si on veut avoir un espoir d'arriver en 2100 à ne pas dépasser les 2 degrés, le moyen le plus important, c'est de faire levier sur l'électricité. Il faut arriver à une électricité à l'échelle du monde qui n'émet plus 1 gramme de CO2 en 2050, qui, à partir de 2050 jusqu'à 2100, fait même mieux, puisque l'on fait des émissions négatives. Le secteur électrique doit se débrouiller pour stocker du CO2. Et dès que, le troisième point, c'est dès que vous avez un mix électrique, un ensemble de moyens de production électrique qui émettent moins de CO2, il faut s'empresser d'utiliser l'électricité, avec aussi la biomasse, mais en faisant attention aux problèmes de ressources liés à la biomasse, il faut s'empresser d'électrifier les transports et les bâtiments. Par partout dans le monde, pas parler de la France là. Et donc, pour ceux qui ont suivi la COP21, vous voyez qu'on est sur une trajectoire qui est totalement différente de celle qui correspond à ce qu'on appelle les INDC ou NDC, les contributions des pays telles qu'elles ont été posées sur la table pour le moment à Paris. Alors avec un processus de review, de revue, disons tous les 3, 4, 5 ans, pour essayer de durcir les moyens de politique publique, mais on en est très loin. Et donc, ce que je retiendrai de cela, c'est vraiment cette exigence, en particulier cette exigence en termes de timing, qui est beaucoup plus rapide que ce que nous avons en tête. Du coup, on va garder l'idée que ça serait bien que la science, l'industrie, les chercheurs s'intéressent un peu plus à ce que pourrait être une façon, avec l'électricité, de mettre en place des émissions négatives. Et avant cela, c'est mon deuxième point, ça veut dire qu'il faut se dépêcher pour essayer d'avoir des moyens de production qui n'émettent plus de CO2. Si l'on met à part l'hydraulique, qui a un potentiel dans le monde encore très important, en particulier en Asie et en Afrique, mais plus chez nous, il vous reste trois moyens. Le nucléaire, la capture-stockage du CO2 pour utiliser le charbon et le gaz. Et donc ça veut dire qu'à l'horizon de, si on prenait ça au sérieux, 2025-2030, il ne faudrait plus construire une centrale au gaz sans mettre derrière les moyens de capter le CO2, puis de trouver des stockages géologiques pour essayer de le mettre quelque part d'où il ne ressortira pas. Et puis le dernier moyen, ce sont les renouvelables variables, comme les éoliennes ou le solaire, mais dont il faut trouver le moyen de les insérer dans le système électrique de façon satisfaisante. Si je prends le nucléaire, c'est le nucléaire de génération 3. Les deux questions auxquelles nous sommes confrontés, vous avez en tête qu'aujourd'hui, il y a des prototypes au fond en France, en Finlande, en Chine, aux États-Unis, en Russie. Et donc la question, c'est comment on arrive à réduire substantiellement les coûts de ces prototypes? Comment on remet en place des filières industrielles de qualité? Évidemment, ça va passer par la standardisation, la mise en place de séries, comme la France a su le faire par le passé. Si l'on prend, donc c'est juste pour vous montrer les goulets d'étranglement. Donc il faut qu'on trouve une façon de simplifier ces designs, de se donner une visibilité pour faire des séries et de diminuer les coûts en remontant ou en montant le niveau de qualité des filières industrielles. C'est le problème que nous avons en France. C'est la question que sont en train de résoudre nos amis chinois, nos amis russes. Et c'est la question que les Américains regardent de près en plantant des centrales, un peu chez eux en Géorgie ou ailleurs, dans deux ou trois sites, mais surtout en essayant de faire des partenariats avec d'autres. Sur la capture-stockage du CO2, premier objectif, quand on regarde les démonstrateurs qui ont été faits au Canada, aux États-Unis en particulier, il faut là aussi arriver à diviser par deux les coûts complets. C'est possible si là aussi on met en place un tissu industriel de qualité et qu'on passe à des standardisations. Ce sont des machines aussi complexes et aussi lourdes et donc qui ressemblent au nucléaire. Il faut aussi trouver une solution pour le stockage géologique. Le problème clé, c'est que les ordres de grandeur de stockage qu'il nous faudrait pour que ça puisse être utile pour le climat, c'est 5 à 10 gigatonnes de CO2 par an. C'est énorme et il n'est pas du tout sûr que les aquifères autorisent l'injection à des rythmes élevés de CO2 sans que ça puisse avoir des conséquences en termes de rejet du CO2 ou de micro-séisme dans les zones où on injecte. Donc il faut faire de la recherche, il faut faire des prototypes dans ces domaines. Et puis les renouvelables. Alors les renouvelables, pour terminer là-dessus, je dirais qu'au fond, il faut probablement distinguer deux catégories de régions. Il faut faire un peu de géographie. Donc je regarde monsieur le secrétaire perpétuel. Il faut faire un peu de géographie. Et donc, il y a les zones bénies pour les renouvelables, celles qui ont deux fois plus de vent et deux fois plus de soleil que nous, la Californie, l'Arabie Saoudite, pour ne retenir que ces exemples pour le soleil. Là, naturellement, puisque les renouvelables, c'est essentiellement des coûts d'investissement, comme le nucléaire, comme l'hydraulique, si vous avez deux fois plus de soleil et de vent, ça coûte deux fois moins cher. Donc c'est beaucoup plus proche de la compétitivité. Et dans ces zones, ce qui peut être intéressant, c'est que la demande est corrélée au vent et au soleil. Et il n'y a pas d'été et d'hiver. Vous n'avez pas besoin de transférer de l'électricité entre un été et un hiver, d'avoir du stockage saisonnier ou du stockage hebdomadaire entre une semaine sans vent et une semaine avec vent. Vous avez juste besoin de stockage journalier, de transférer des kilowattheures du jour vers la nuit. Ça, les batteries peuvent faire, ou pourront faire, si leurs coûts continuent à baisser. Elles ne pourront pas vu d'aujourd'hui, faire assurer les deux octets de stockage. Il faut passer à la réflexion sur l'hydrogène, sur la méthanation, et donc se poser, disons, démarrer une réflexion sur des sujets qui sont beaucoup plus embryonnaires, au fond, par rapport à, en termes de maturité économique. Et donc, en creux, dans les pays tempérés comme les nôtres, dans les pays bénis des dieux, la compétitivité de ces renouvelables variables, avec des pénétrations substantielles à 5 ou 10 ans, devrait participer de la solution. En revanche, chez nous, il faut qu'on arrive à franchir des étapes supplémentaires en termes de baisse des coûts du photovoltaïque, surtout un peu des éoliennes, et des ruptures sur les questions stockage saisonnier, stockage hebdomadaire. Donc vous voyez que les dimensions systémiques sont très importantes. Le troisième point, alors je vais aller beaucoup plus vite, c'est sur les logements et les transports. Alors le logement, vous avez perçu au travers de ce que j'ai dit tout à l'heure qu'au fond on a les technologies, ce qui est vraiment à mettre en place, ce sont plutôt les politiques publiques de qualité. En revanche, pour les transports, on n'avait pas encore les technologies, sauf pour le fret, métro-train. Mais là, effectivement, je pense que quand on regarde la Chine et les États-Unis, on voit que quelque chose est en train de changer peut-être très vite du côté des véhicules électriques. Et donc, il n'est pas impossible qu'à 5-10 ans, véhicules électriques autonomes, on ait vraiment des innovations technologiques qui permettent, dans les zones où il y a un mix en CO2, de vraiment faire une révolution dans le secteur du transport qui nous permettrait de mettre en œuvre ce que souhaitent l'Agence internationale de l'énergie et la Banque mondiale. Et puis enfin, dernier point de prospective, on parle beaucoup de territoires énergie positive, de décentralisation. Je pense pour l'électricien, il faut bien avoir en tête que il va falloir décentraliser beaucoup plus les décisions au niveau des territoires, des consommateurs, et pour autant, plus vous avez le développement de nouveaux moyens de production qui ont des formes, des structures aléatoires, variées, nouvelles, vous ajoutez l'aléa lié au soleil, l'aléa lié au vent, et plus vous ajoutez de nouveaux usages qui ont là aussi des courbes de charge avec des caractéristiques aléatoires nouvelles, potentiellement complémentaires avec votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, plus vous avez intérêt à interconnecter, plus vous avez intérêt à compter sur les réseaux, là où vous avez une forte densité de consommation. Bien sûr pas en Afrique rurale ou semi-rurale, mais dans nos régions, ou en Afrique le jour où ils vont arriver à développer les villes, à se développer, à l'horizon 2050, on devrait voir de plus en plus l'intérêt d'interconnecter encore davantage les réseaux d'électricité. Et donc vous voyez qu'il va y avoir quelque chose d'un peu complexe, que je décrivais déjà en introduction, comment on concilie vision globale, optimisation globale de ces systèmes de plus en plus interconnectés, et la nécessité de décentraliser une partie des décisions. Ça renforce l'intérêt de faire, pour le mathématicien appliqué que je suis, des mathématiques appliquées, encore plus sophistiquées, de solliciter l'intelligence artificielle, d'aller vers les softwares et de faire lever sur le numérique. Il y a un champ aussi de R&D et industriel qui conditionnera également l'indépendance énergétique de nos pays, France et de notre région Europe, et sur lequel je pense qu'on devrait aussi être beaucoup plus énergique pour essayer d'avancer. Du coup, en termes de politique publique, quelle proposition pour la France ? Si j'ai encore quelques instants, Monsieur le Président, parce que je dirais qu'il faut commencer par hiérarchiser davantage les objectifs. Il faut que le politique hiérarchise ses objectifs. J'aurais tendance à privilégier les trois objectifs de votre libellé, et donc de mettre vraiment les enjeux environnementaux, le climat comme la pollution locale au cœur des objectifs, de garder l'indépendance énergétique, mais en ayant en tête qu'il va falloir progressivement s'intéresser plus à la maîtrise industrielle que à l'approvisionnement en ressources, pétrole, gaz, charbon, qui devrait être, si tout ce que j'ai dit est juste, de moins en moins cher et ne posant pas trop de problèmes dans les 20, 30, 40 ans qui viennent, pas tout de suite, mais à cet horizon. Et évidemment, de mettre l'économie et les conséquences sur la compétitivité du pays, comme de l'Europe, au cœur de nos préoccupations. Si on le fait, alors, le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment, pour la France, distinguer deux échelles de temps. à l'horizon 2030-2035, pour des raisons que je n'ai pas développées, l'Europe et la France sont en surcapacité. Crise économique, plus déploiement massif des renouvelables. Si on fait levier sur la prolongation des tranches nucléaires, noyer le parc existant, si on le prolonge à 50 ans, ça nous permet d'aller jusqu'à 2030-2040, 60 ans, 2040-2060. On devrait, et l'autorité de sûreté va se prononcer dans l'année qui vient sur ces questions, on devrait probablement pousser une bonne partie des tranches à 60 ans et la quasi-totalité à 50 ans. Ce qui signifie que si on a en tête que sur le plan économique, c'est probablement moitié prix des alternatives les plus intéressantes à cet horizon, il faut prolonger ces tranches. Ça nous garantit, sous réserve de l'autorité de sûreté, ça nous garantira une électricité sans CO2, bon marché, jusqu'à l'horizon 2030-2040. Ce qui nous permet de faire deux choses. Électrifier massivement les transports et le bâtiment, tout de suite, avec les bonnes mesures, et de mettre le paquet pour préparer l'avenir sur ces trois solutions nucléaires de génération 3, renouvelables, avec les questions liées au stockage saisonnier, et regarder gaz et charbon avec ces questions de stockage, je pense au BRGM qui peut apporter pas mal de choses sur ces sujets, donc de mettre en chantier ces deux actions, l'une pour réalité dans l'économie dans les 10-15 ans qui viennent, transport-logement, et l'autre pour préparer l'horizon 2030-2040. Sur les logements, vous avez au fond, en prenant de nouveau l'image inversée de ce que je disais tout à l'heure, sur les logements, si on mettait en place des diagnostics énergétiques en émissions de CO2 et non pas en énergie primaire, si on rebasculait beaucoup plus rapidement que nous le faisons aujourd'hui, la fiscalité énergétique, on commence à le faire grâce à la taxe CO2. Mais si on le faisait plus vite, on aurait probablement des effets beaucoup plus importants tout de suite. Sur le transport, il faut probablement distinguer marchandises d'un côté et véhicules particuliers de l'autre. Partir des externalités, si je prends le sujet marchandises, on voit que dans les externalités, il y a le coût des routes, les émissions de CO2, les émissions SOx, NOx, particules, et puis les problèmes de congestion dans les métropoles, dans les deux cas de figure d'ailleurs. Si on regarde très vite le sujet marchandises, et donc c'est plus pour illustrer là encore le type d'analyse systémique qu'il faudrait conduire davantage, vous voyez que les camions payent à peu près leurs externalités sur la longue distance quand ils prennent l'autoroute, parce qu'il y faut la taxe, la TICPE, plus les péages. En revanche, sur les nationales, c'est raté, en particulier depuis qu'on a renoncé à l'écotaxe. Et donc, et puis le deuxième problème, c'est quand ils arrivent dans les zones denses des villes, là, les externalités en termes de pollution locale et éventuellement de congestion ne sont pas non plus prises en compte. Et donc, comment travailler sur ces questions? On voit que sur les sujets de longue distance, il faudrait probablement ouvrir, ce qui est déjà fait un petit peu, les questions de développer le fret ferroviaire, comme c'est le cas dans d'autres pays, en lien avec les ports pour les marchandises. On peut aussi, ça paraît futuriste, mais des pays commencent à l'examiner, s'intéresser à développer sur les autoroutes des caténaires pour les camions, pour que les camions puissent, clac, s'accrocher sur les caténaires et comme ça devenir électriques. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a une réflexion à mener sur où situer les plateformes logistiques pour passer des gros camions aux petits camions qui vont faire la distribution, comment faire en sorte qu'elles soient pas trop loin du centre des agglomérations, mais suffisamment pour ne pas poser de problème en termes de pollution, et comment ensuite passer éventuellement à l'électrique une partie des véhicules utilitaires. Il faut ajouter bien sûr que tout ça doit aller de pair avec une réflexion sur l'hydrogène, qui peut aussi, pile à combustible et hydrogène, qui peut aussi jouer son rôle. Voilà, donc véhicules particuliers, je n'ai pas développé, mais on pourrait faire le même type d'analyse un peu systémique, et je crois qu'en quelques mots, on pourrait essayer de décrire le problème et d'essayer de mettre sur la table un vrai programme sur ces sujets. Voilà. Donc au fond, si on ajoutait à cela trois points aussi importants, mais que je ne vais pas développer, responsabiliser les territoires, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les bonnes règles du jeu, préparer l'horizon 2030-2040 en termes d'industriels, et intervenir au niveau européen pour essayer de changer la donne en fonction des lignes que j'ai essayé de décrire, je pense qu'on pourrait avoir effectivement les moyens de redonner à la France son leadership et à l'Europe aussi sa place centrale sur l'énergie dans les temps qui viennent. Et donc, au fond, si je dois conclure, ce qui nous manque, comme je le disais en introduction, c'est probablement encore plus les hommes et les institutions au service de l'État, parce que les hommes et les hommes, ils existent. Mais le problème, c'est qu'une partie d'entre eux ne sont plus au service de l'État ou ne sont pas sollicités de façon systémique au service de l'État. Donc on a trois problèmes. On a un problème de compétences, on a cette question de fragmentation de la sphère publique que j'évoquais en introduction, et puis on a un problème de responsabilisation du politique. Ce problème de compétences, on voit que sur le plan des compétences industrielles, avec toutes les privatisations justifiées pour une large part des 30 ou 40 dernières années, une bonne partie de ces compétences industrielles sont plutôt passées dans le privé. Moi, je constatais qu'une bonne partie de mes étudiants à Polytechnique, les plus malins, y compris ceux qui faisaient partie des corps de l'État, je veux dire, au-delà d'un premier passage dans l'administration, les plus malins, ils sont à Saint-Gobain, ils ont fait des start-up, ou ils sont dans la finance, monsieur le Président. Donc, tout n'est pas désespéré, mais ça sera bien qu'on puisse en récupérer quelques-uns au service de la puissance publique et de l'intérêt général. J'ajoute que, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'arrivent à faire les États-Unis. Je ne vais pas développer tout de suite comment, mais on peut essayer de mobiliser des compétences en dehors de la sphère de l'État, au service de l'État. Ça n'est pas non plus impossible. Donc je crois que ça, c'est un point important, et c'est un point important sur les dimensions industrielles, économiques et scientifiques. Deuxième point, la fragmentation de la sphère de l'État. Vous voyez, on a maintenant, alors c'était mon ami Jean Tirole, la théorie des avocats. Bon, d'accord, à chaque problème, son avocat. Donc, à chaque problème dans l'économie, sa politique publique et son agence indépendante. Je pense que c'est parfois pertinent, pas toujours. Donc on a là maintenant, entre l'Agence des participations de l'État, la DGEC, le Commissariat général au développement durable, la Commission de régulation de l'énergie, où se trouvent d'ailleurs de plus en plus de compétences économiques, bonne chose. La DGSIS, où il y a l'essentiel des compétences industrielles. On pourrait continuer. L'ADEME, le CEA, où vous avez l'IFP, où vous avez des compétences scientifiques. La question, c'est comment on mobilise davantage, ensemble, ces compétences, dans un lieu qui serait en charge d'avoir cette vision globale sur l'énergie. Je ne dis pas de changer tout, mais comment faire simple? Je ne vais pas parler de task force, comme pour le terrorisme, mais enfin, bon. Et puis, responsabilité du politique, mais comme là je touche à mon niveau d'incompétence, je ne vais pas développer. Et donc, pour terminer, là vraiment, je dirais que ce qui me paraît passionnant dans cette affaire, c'est qu'il me semble que l'énergie, c'est vraiment une illustration des problèmes auxquels nos démocraties vont faire de plus en plus face dans l'avenir. Démocratie confrontée à un monde plus dense, plus solidaire, plus technique, plus complexe, plus interconnecté, plus numérique. Donc, les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, ce sont des questions qui sont effectivement de plus en plus prégnantes. Et je crois que là, pour terminer, je voudrais juste évoquer des travaux d'Olivier Godard ou de Dominique Bourg sur ces questions des institutions nécessaires pour traiter ces démocraties. Je pense qu'on n'a pas de réponse, mais il me semble intéressant juste d'évoquer cette idée d'Olivier Godard pour essayer de décrire ces nouvelles questions, où il parle d'univers controversé. Ce sont des domaines qui sont clés, importants pour la vie des citoyens de la cité. Ce sont parfois même des domaines qui sont des conditions de possibilité, en fait, d'une vie bonne en société. Ce sont des domaines qui sont complexes, pluridisciplinaires, incertains au sens de Knight, et qui sont controversés, c'est-à-dire qu'ils renvoient à des options, des visions du monde différentes de la part des acteurs sociaux. Et donc, si on croit, comme l'écrit Dominique Bourg dans un de ses livres, à l'exercice partagé de la raison, je termine là, vous avez raison, si l'on croit à l'exercice partagé de la raison dans un espace public sur ces sujets, je crois qu'il serait bon peut-être qu'on reconnaisse que ces questions sont des questions qui devraient solliciter finalement autant Aristote que Descartes. Et c'est ça, je pense que ceux qui n'ont pas participé à ces groupes d'expertise comme le GIEC, le groupe intergouvernemental pour ces questions climatiques, ne réalisent pas. C'est-à-dire qu'on est aussi, il faut faire de la science, mais c'est aussi la science du vraisemblable. On est autant dans le monde sublunaire d'Aristote que dans le monde de la nécessité mathématique des astres. Et donc je pense que c'est la question consiste effectivement à trouver les institutions pour que puissent se réunir l'ensemble des expertises au service du politique et au service des citoyens. Dominique Bourg évoque un collège du futur ou une académie du futur. Je pense que c'est peut-être des questions qu'il faut continuer à discuter. Excusez-moi de cette longueur. Merci beaucoup pour votre attention.